Et bienvenue à tous dans votre nouveau rendez-vous sport, ici sur Radio Campus, le forum des sports. Je suis Arnaud Boulry et je suis accompagné de Baptiste Lelarge. Baptiste, je te laisse l'honneur de te présenter en premier.
Alors, je suis en master 1 de contrôle de gestion ici à l'IAE de Pau. Je viens de Saint-Girons, dans l'Ariège, et je pratique le foot, mais aussi le vélo et le tennis. Et toi, Arnaud, qui es-tu?
Et moi, je suis Arnaud, je viens de Mont-de-Marsan, un petit peu plus loin d'ici, mais pas trop. Je suis en L1 de droit, moi, et en sport, j'ai pratiqué le rugby principalement, que d'ailleurs j'ai repris ici en universitaire. Et sinon, je fais un peu de foot, un peu de judo, voilà. Je fais pas mal de sport. Alors, je te propose, Baptiste, d'enchaîner directement avec le sommaire pour présenter ce dont on va vous parler.
Donc on attaquera avec une présentation du week-end de Coupe d'Europe qui arrive avec Arnaud.
Et ensuite, Baptiste nous enchaînera avec un petit bilan de la saison 2023 à l'ATP de tennis. Nous donnera ses attractions à suivre en 2024 sur la planète tennis.
Arnaud reviendra lui sur les FIA Awards. Il mettra à l'honneur les pilotes et les écuries qui ont marqué 2023. Il donnera aussi quelques informations sur le Grand Prix de Pau qui aura lieu en mai 2024.
Et oui, après avoir parlé de l'épreuve automobile paloise, Baptiste reste dans le coin en nous présentant le récap palois, qui met en valeur les clubs sportifs de l'agglomération paloise.
Donc on attaque avec le rugby, avec le Montois, Arnaud.
Et oui, alors pour ce week-end, on rappelle le format, deux Coupes d'Europe, la Champions Cup premièrement, la première Coupe d'Europe, avec ce vendredi deux matchs ce soir à 21h. Premièrement, les Bayonnais qui reçoivent les Écossais de Glasgow, avec notamment les débuts de Rhys Hodge, l'Australien, l'international qui débutera sur le banc. Grigory Paté a annoncé que les Bayonnais visaient désormais la qualification en huitième de finale de Champions Cup. Après le match nul historique décroché au Munster, ça s'annonce très compliqué face à un Glasgow très en forme en ce début de saison. Mais on va y croire. On va y croire parce que à côté, sur la même horaire, le vendredi à 21h, les Toulonnais se déplacent à Northampton, en Angleterre. Et eux aussi accueillent un nouvel arrière dans leur effectif, Leicester Fainga'a Anuku, le Néo-Zélandais, qui après une première feuille de match le week-end dernier, démarre ce match comme titulaire face à l'équipe de Courtney Laws, Alex Mitchell, et en son du top 14, Teemu Maiyanavanua, pas mal de beaux petits mondes dans cette équipe de Northampton. Et on a fini avec la soirée de vendredi.
On passe donc à samedi avec des Rochelais qui devront rebondir suite à la défaite face au Leinster.
Et oui, la Rochelle part très loin, au Cap, en Afrique du Sud, chez les Stormers, dans un match qui pourrait déjà être un tournant de la saison des Rochelais et compliquer fortement la saison des doubles champions d'Europe. Les Bordelais, eux, reçoivent les Bristol Bears de Virimi Vakatawa et pourront confirmer la magnifique prestation livrée sur la pelouse du Connacht avec une victoire où ils ont mis plus de 40 points aux Irlandais là-bas, vraiment pas mal. Lyon, eux, devront retrouver de la confiance après un début de saison compliqué et une défaite amère à Bristol sur le score de 34 à 36, 34 points pour les Lyonnais et 36 points pour les gars de Bristol. Et ça s'est joué à pas grand-chose, mais les Lyonnais affronteront les Bulls sud-africains qui viennent en France, les Bulls très en forme en ce début de saison, avec notamment dans l'effectif Kurtley Arinze ou encore Johan Groblard que je vous propose d'observer pour ce match car il est amené à devenir le nouveau talonneur titulaire de l'équipe sud-africaine. On finit la journée du samedi avec le déplacement du Racing 92 qui doit se ressaisir après une défaite face à de superbes Harlequins la semaine dernière. Les Leicestermen chez qui les Racingmen se déplacent sont sous le coup d'une quatrième défaite d'affilée s'ils venaient à perdre ce match et vont se donner pour éviter une telle mauvaise série. C'est la dernière journée, dimanche, dernière journée du week-end, avec un match au sommet entre les Harlequins et le Stade Toulousain à 16h30, ce dimanche, sur France 2. À ne manquer sous aucun prétexte, hein. Foncez sur France 2 ce dimanche, ce sera un match au sommet. Et pour conclure les matchs de français en Champions Cup, le Stade français conclut en recevant Leicester ce dimanche à 18h30.
Mais Arnaud, il n'y a pas que la Champions Cup, il y a aussi la petite Coupe d'Europe, la Challenge Cup.
Et oui, en Challenge Cup, c'est Clermont qui ouvre le bal ce vendredi soir en déplacement à Gloucester, dans un stade qui sera à coup sûr chauffé à blanc. L'équipe de Gloucester alignera une énorme équipe composée de noms très bien connus, tels que Santiago Carreras à l'ouverture, Johnny May et Chris Harris dans la ligne arrière, ou bien encore Zach Mercer, l'ancien Montpelliérain, et même Louis Rizamit. Castres se déplacera à Édimbourg dans un match qui promet, lui, beaucoup de spectacles. Et oui, car si spectacle, les Castres semblaient jurés jusqu'à présent, les Castrés semblent désormais avoir une équipe prête à faire bouger de nombreuses têtes. Oyonnax reçoit à domicile les Zèbres de Parme. La victoire semble indispensable aux Oyomènes face à une équipe si faible, même si la lutte pour le maintien semble tellement plus importante que la Challenge Cup. Les Perpignanais, eux aussi, devront faire face au même dilemme que Oyonnax, et la même réponse assez évidente. Les Arlequins partent en Italie, à Trévise, dans un match qui s'annonce très compliqué, et aussi devraient logiquement se concentrer sur le maintien. Les Montpelliérains reçoivent dimanche les Gallois de Ospreys, qui, comme toutes les franchises galloises, semblent malades en ce début de saison, et devraient aider les Montpelliérains à gagner et à reprendre de la confiance. Mais j'ai oublié un match, Baptiste, non ?
Oui.
Et si, c'était fait exprès ! Eh oui, nos chers Palois joueront aussi ce week-end. Mais je laisse monter le suspense, car Baptiste en parlera en fin d'émission. Et alors que nous sommes dans une saison de rugby qui bat son plein, au contraire, la saison de tennis arrive à la fin de sa trêve et à l'ouverture d'une nouvelle saison.
Tout à fait Arnaud, nous sommes déjà à 13 jours de la reprise du tennis avec cette compétition organisée par l'ATP, l'United Cup. C'est un tournoi d'exhibition qui mène aux positions 18 nations, mais ce n'est pas là le cœur de ce propos. Revenons, si vous le voulez bien, sur la saison 2023 conclue par une évidence, celle du 7e titre de Novak Djokovic au Masters, le tournoi des maîtres qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la planète. Une autre évidence tennistique, pour la 8e année de sa carrière, le Serbe termine numéro 1 mondial. Un record de plus, bien entendu.
Mais ce n'est pas le seul record que le Serbe a glané, non ?
En effet, Arnaud, le Joker détient d'autres records, comme le nombre de grands chelems, 24 sur toute sa carrière. Une moisson qu'il a complétée cette année avec l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open. Seul Wimbledon manque au joueur serbe. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, l'en a empêché au terme d'une finale époustouflante remportée par l'Espagnol, donc en 5-7. Le prodige espagnol avait une grande pression cette année suite à sa victoire à l'US Open en 2022. Mais il a quand même remporté Wimbledon et deux Masters 1000, ses points d'orgue de la saison qui a quand même été terni par de nombreuses blessures, l'empêchant de disputer les plus grands tournois. Derrière ces deux cadors du tennis mondial, plusieurs joueurs se disputent donc les miettes. On y retrouve les Russes Rublev et Medvedev qui font toujours preuve de constance au plus haut niveau avec respectivement 2 et 5 titres chacun, mais surtout de bons résultats en Grand Chelem. On peut noter aussi en retour à un très bon niveau d'Alexander Zverev qui revient d'une très grosse blessure contractée à la cheville droite en demi-finale de Roland-Garros 2022 face à Rafael Nadal. Il avait quitté le court en pleurs. Il figure maintenant en fin de saison au 7e rang mondial. Enfin, cette année, c'est celle de la confirmation pour le jeune italien Yannick Sinner. 3 titres cette année sur les 4 derniers mois de compétition, avec notamment son premier Masters 1000 à Toronto. L'Italien au coup droit dévastateur est arrivé en finale du tournoi des maîtres face à Djokovic. Ce même Djokovic que l'Italien avait battu pourtant en phase de poule. On s'est dit alors, en fin d'année, que la belle allait avoir lieu en Coupe Davis, et ça n'a pas loupé. Cette partie disputée en 2-7 gagnant tourna l'avantage du Transalpin en demi-finale de cette compétition historique. L'Italien Sinner a sauvé notamment 3 balles de match. Cela compte quand même dans un palmarès en fin de carrière puisque c'est l'Italie qui a remporté cette édition de la Coupe Davis au nez et à la barbe de l'Australie. Cela faisait 47 ans que les Italiens n'avaient pas remporté le saladier d'argent. J'aurais pu vous parler d'autres stars du circuit comme Holger Rune ou Stefanos Tsitsipas, mais on va maintenant revenir sur la saison prometteuse des Français.
Eh oui, qu'en est-il de la saison de nos Français ?
Arnaud, un chiffre à retenir, 7, comme le nombre de titres gagnés par les Français sur le circuit ATP. Cela faisait très longtemps que les tricolores n'avaient pas remporté autant de titres sur une saison. On y retrouve un mélange de l'ancienne génération avec des Gasquet, Manarino ou Monfils, et un mélange donc avec la nouvelle génération, Arthur Fils et Hugo Humbert. Alors, les mauvaises langues diront que ce sont que des ATP 250, c'est-à-dire une catégorie de tournoi assez faible, mais est-ce qu'on se souvient des années de vaches maigres par lesquelles nous sommes passés ? On peut avancer que pour les anciens donc de l'ancienne génération, ce sont les derniers moments de leur carrière et assimiler ça à un baroud d'honneur. Mais pour la next gen, la génération future donc, ce sont les prémices d'un avenir radieux avec notamment Fils ou Van H. On a quand même deux Français dans le top 25 mondial, là aussi, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Autre point de satisfaction côté français, ce sont les 26 tournois Challenger remportés. Les tournois Challenger sont la seconde division du circuit ATP. On y retrouve là aussi un mélange de l'ancienne et de la nouvelle génération, comme Benoît Paire ou Arthur Cazaux.
Et alors qu'on parle de la saison de tennis, on est déjà à 7 mois seulement des JO de Paris, non ?
Oui, Arnaud, pour 2024, donc année des JO de Paris, un sacre olympique sera donc en jeu sur les infrastructures de Roland-Garros. C'est le seul titre qui manque à la panoplie de Novak Djokovic. Il en fera un coup sûr un de ses principaux objectifs pour 2024. Cette saison 2024 aussi sera marquée par le retour du taureau de Manacor. J'ai bien sûr nommé Rafa Nadal. Après une année blanche en 2023, il a annoncé son retour pour une saison complète, apparemment. On espère tous le voir en pleine possession de ses moyens et que son corps le laissera tranquille. On rêve tous, je pense, de le voir soulever la Coupe des Mousquetaires une 15e fois à Roland-Garros. Côté français, on aimerait voir des joueurs se hisser en deuxième semaine de Grand Chelem, ce qui n'est pas arrivé depuis 4 ans. De plus, côté français, la lutte fera rage pour obtenir l'un des 4 tickets pour disputer les Jeux Olympiques. L'obtention de ces tickets se fera au mérite, en fonction du classement des joueurs français, même si le nouveau capitaine de Coupe Davis en charge des Jeux Olympiques aussi, Paul Arimantieux, aura son mot à dire. En fin de saison, l'ATP a distribué quelques récompenses, notamment Arthur Fils, le français, qui a été nommé Révélation de l'année. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les FIA Awards qui vont récompenser les différentes écuries, mais aussi les pilotes.
Et oui, les FIA Awards, la cérémonie de trophées de la Fédération Internationale de l'Automobile, a été organisée à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et qui accueille un Grand Prix de Formule 1 depuis 2016. On voit bien les rapprochements entre sport automobile et les États prêts à mettre de l'argent sur la table, comme quoi la géopolitique en sport, bah, c'est de la géopolitique, quoi. Ça sert des intérêts communs. Le premier trophée de la soirée est revenu à Max Verstappen, champion du monde de Formule 1 qui a battu de nombreux records cette saison, tels que les 9 victoires de rang de Sébastien Vettel en 2013. Verstappen a remporté 10 Grands Prix d'affilée. En 2022, tiens, Verstappen avait déjà fixé un record de 15 victoires en une seule saison de Formule 1. Et en 2023, il a remporté 19 courses. Voilà, c'est Max Verstappen. 86% des courses d'une saison remportées par un seul pilote. Il bat là le record d'Alberto Ascari, qui date quand même de 1952, alors qu'il avait gagné 75% des courses en 52, Ascari. Bref, on va s'arrêter là pour Max Verstappen.
Il faut noter aussi qu'il y avait moins de courses aussi à l'époque d'Ascari. Mais qu'en est-il des autres disciplines automobiles ?
Et oui, Toyota était très en forme en 2023 en remportant le championnat du monde de rallye raid et d'hypercar. En rallye, c'est Kaye Rovanpera qui est titré. Rovanpera, à peine 23 ans et déjà 2 titres de rallye, alors qu'auparavant, le record de précocité était pour Colin McRae, champion à 27 ans. Alors qu'en rallye raid, c'est-à-dire les voitures qui courent le Dakar, on a un Français qui remporte un titre, Mathieu Baumel, copilote de Nasser Al Attiyah. Pour rester en France, on peut aussi souligner le magnifique tiercé gagnant en Formule 2, avec Théo Pourchaire honoré pour sa victoire dans la catégorie, son coéquipier Victor Martins, champion des rookies en Formule 2, et l'écurie Hart, fondée par Nicolas Todd et Frédéric Vasseur, qui ramène le titre constructeur de Formule 2 dans l'Essonne. Théo Pourchaire qui courra d'ailleurs en Super Formula la saison prochaine, le championnat de monoplace japonais avec le team Inpool. C'est un très bon team, hein. Le team Inpool est vraiment vénéré au Japon. Pour rester en France, Théophile Naël a fait briller la France en Espagne avec son titre de champion de F4 espagnol. Et Evan Gilter a été récompensé pour son titre de F4 française cette saison, lui qui avait gagné le Grand Prix de Pau cette année. Le grand gagnant de l'année côté monoplace reste tout de même Andrea Kimi Antonelli, le jeune Italien titré 2 fois cette saison en Freca et en Formule Régionale Moyen-Orient et qui participera l'année prochaine en Formule 2 directement, et oui, à seulement 17 ans.
Tu nous as rappelé que Evan Gilter avait gagné le Grand Prix de Pau, mais moi j'ai pas oublié que tu nous avais promis des informations sur le Grand Prix de Pau, il me semble.
Sport automobile, encore ? Allez, on continue. Et je vais m'inquiéter ici, je vais m'inquiéter pour le Grand Prix de Pau, autour duquel aucune communication n'est réalisée, alors que le Grand Prix est censé avoir lieu en mai. C'est simple, quand je vais sur le site du Grand Prix de Pau et que je cherche la billetterie, ben, je peux encore acheter des billets pour mai 2023. Le Grand Prix avait déjà perdu de manière brutale l'Euroformula Open cette année pour cause d'un carburant trop polluant, déléguant ainsi la course reine du Grand Prix de Pau à la Formule 4 France. Sauf que la Formule 4 France a déjà annoncé son programme il y a quelques semaines et la FK France ne viendra pas à Pau. Et c'est certain car de toute manière, les dénoms figurent à la place du créneau palois. Nouveau rebondissement hier avec l'annonce du calendrier du TCR Europe, compétition de voitures de tourisme, donc des voitures de série en version course, entre guillemets, avec l'annonce du calendrier du TCR Europe réduit de 7 à 6 courses et où ne figurent pas l'épreuve paloise. On le sait, le sport auto ne trouve de plus en plus de peine à évoluer avec son temps et les mœurs, et alors que l'année dernière, il était devenu le Grand Prix des mobilités pour contenter ceux qui ne portent pas la voiture dans leur cœur, le Grand Prix de Pau pourrait très bien disparaître brutalement ou n'être que l'ombre de lui-même. C'est dommage, c'est triste, car c'est tout de même le sport automobile et Pau. Et à Pau, on a un circuit urbain de qualité, présent avec du personnel et des commissaires qualifiés, ce qu'il manque à beaucoup de Grands Prix dans le monde, dans le globe. Mais il manque à Pau un bon promoteur pour le Grand Prix. On va encourager au maximum les promoteurs potentiels pour avoir un Grand Prix cette année, et espérer que la barre sera redressée avec qualité les prochaines années, car on parle tout de même d'un Grand Prix qui compte à son palmarès des champions tels que Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Jim Clark, Jack Brabham, Jackie Stewart, Jochen Rindt, Jean Alesi. Et encore, je peux continuer, mais je vais juste vous donner un dernier nom, Lewis Hamilton. Fini des lamentations automobiles, j'en ai marre de broyer du noir, et je vais vous proposer d'écouter Baptiste qui nous apporte les dernières actualités de nos clubs palois.
Donc je vais vous parler de la rubrique qui va mettre en avant l'actualité sportive des clubs de l'agglomération paloise, c'est le récap palois. On va commencer avec le Bilaire Handball qui évolue en seconde division nationale de handball, en Pro League. L'an passé, la formation paloise a terminé aux portes des barrages pour jouer la montée en Liqui Moly Star League et en finissant 7ème. Et cette année, ce n'est pas la même dynamique. Bilaire pointe à la 12ème place du classement, un classement qui compte 16 équipes, le tout au tiers de la saison. L'équipe a beaucoup de blessés, obligeant même l'entraîneur adjoint fraîchement retraité Jérémy Vergeli à réintégrer l'effectif. C'est une lutte pour le maintien qui attend désormais les hommes du coach Daniel Deherme jusqu'en fin de saison. Ce soir, c'est un déplacement en banlieue parisienne, à Massy face à un concurrent direct pour le maintien. On poursuit avec le Pau FC. Samedi dernier, les Bernais ont fait respecter la hiérarchie contre Coulaines, club de Régional 1, qui évolue donc au 6ème échelon national, pour le compte des 64e finales de Coupe de France. Voilà donc désormais le club palois qualifié pour les 32e de finale, tour durant lequel on voit les clubs de Ligue 1 entrer en lice. Et ce sera le FC Nantes qui se déplacera dans le Béarn le week-end du 6-7-8 janvier. Demain soir, 19h, c'est un déplacement à Laval qui attend les hommes de Nicolas Uzaï. Les Lavallois sont second classement, les Palois 4e de Ligue 2. On était loin d'imaginer que cette affiche compterait pour le haut du classement en début de saison. On imaginait plutôt une lutte pour le maintien entre ces deux clubs. Il restera un match avant la trêve à disputer en Oostkamp le mardi 19 décembre contre 3.
Et j'y serai. On espère une victoire face à des Troyens très en difficulté en ce début de saison. Et d'ailleurs, demain après-midi, j'irai aussi voir les Palois jouer en Coupe d'Europe. Ils en sont où nos verts et blancs?
Comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as laissé monter le suspense avec la section paloise. Donc la section paloise s'est rendue la semaine dernière en Afrique du Sud pour le compte de la première journée de Challenge Cup pour y affronter les Sharks de Durban, une formation qui compte dans ses rangs les champions du monde comme Etzebest ou Mapimpi. Le coach palois Sébastien Piccheroni a procédé à une revue d'effectifs pour donner du temps de jeu aux jeunes, on pense à Desperes Warfeuille, mais aussi accorder du repos au cadre de cet effectif comme Simons. Une lourde défaite sur le score de 45-5 qu'il faudra effacer avec la réception des Gallois de Newport. Côté championnat, les Bernais sont 4e de top 14, une place en conservée avec la réception de Clermont de La Rochelle, mais aussi un déplacement à Iona durant les fêtes de fin d'année. A noter que les féminines de Lens section paloise n'ont toujours pas gagné de match en 3 rencontres et figurent dernières de leur poule qui compte notamment le Stade Toulousain et Blagnac, deux clubs pourvoyeurs d'un grand nombre d'internationales françaises de rugby à 15. Dernier match samedi, donc demain, face à Grenoble qui est 3e.
Et je crois que tu étais au Palais des Sports vendredi dernier.
Oui, tu es bien renseigné, dis donc. Donc, comme tu l'as dit, on va finir avec l'élan Bernais. L'élan Bernay qui est descendu, comme vous le savez, l'an dernier en Pro B suite à la saison passée. Pour contextualiser, le Pro B c'est un championnat de 18 équipes où chaque point compte dans l'optique d'une qualification en play-off en fin de saison et pourquoi pas rêver à une remontée dans l'élite du basket français. À un peu moins d'un tiers du championnat, le club de Paula Cortez pointe à la 6ème place du classement. Après une large victoire contre un concurrent direct à la montée, les Red Giants de Lille. 4 matchs attendent les partenaires d'Anthony d'ici la fin de la nouvelle année. A noter que le club bernais est toujours en lice pour la Coupe de France et attend son adversaire pour les 8e de finale.
Et merci à tous de nous avoir écoutés, c'était très plaisant. On vous dit au revoir. Au revoir Baptiste.
Au revoir Arnaud.
Au revoir tout le monde. Et on se retrouve prochainement sur les antennes de Radio Campus Pau. Allez, bisous.